I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Positron, le podcast où je vous parle de deux trucs cool que j'ai bien aimés, que ça soit de la série télé, du jeu vidéo, du livre, de la musique. Bon, il y a beaucoup de séries télé, mais aujourd'hui, il y a aussi un petit truc à lire, même si c'est lié au jeu vidéo, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et donc, je suis Patrick Béja, ravi de vous retrouver ou de vous rencontrer si je ne vous ai jamais parlé jusqu'ici. Je fais différents podcasts, dont le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu, qui couvrent l'actu tech et l'actu jeu vidéo toutes les semaines. Mais aujourd'hui, on est là donc dans Positron pour parler d'une série et d'un manga qui est un peu difficile à trouver, mais possible à trouver quand même. Commençons par la série, ça s'appelle The Diplomat. Et c'est une série qui fait plaisir parce que c'est une série qui estime qu'on n'est pas idiot. C'est pas un truc complètement incroyable, c'est pas du Aaron Sorkin, on va dire, mais c'est un thriller politique qui est sur Netflix, qui a une saison de 8 épisodes, dont les personnages principaux sont joués par Kerry Russell, que vous connaissez certainement de Felicity et de The Americans, et Rufus Sewell, qui est un acteur anglais, mais qui est incroyable, qui en particulier qui joue le méchant, pas méchant, de The Man in the High Castle, qui était diffusé chez Amazon. Lui qui est vraiment incroyable, Kerry Russell, qui est très très bien aussi. Et donc c'est un thriller politique dont j'ai entendu parler il y a quelques mois. C'est sorti il y a pas longtemps, hein, et du coup ça se situe dans le. C'est sorti en avril, c'est disponible en avril. Ça se situe dans le monde donc existant, et c'est l'histoire d'une opératrice de la CIA, ou enfin des services de renseignement américains, qui voulait être placé à Kaboul après qui connaît bien cette zone du monde, qui veut aller là-bas et qui est replacé en Angleterre pour des raisons politiques de haut niveau, qui joue dans toutes les intrigues de la série et qui va devoir gérer des problèmes politiques en Angleterre. Entre l'Angleterre et d'autres pays et les États-Unis, oui, je dis, j'ai même pas mentionné, mais évidemment, elle est américaine, hein, donc c'est une diplomate américaine, et elle est pas complètement à l'aise dans ce rôle, là où son mari, lui, est une star du domaine, mais qui en même temps est un petit peu un mouton noir, il est un peu blacklisté, et ils s'entendent pas entre les deux, mais en même temps, ils s'aiment et ils s'entraident. C'est pas une série d'immense qualité dont je vous dirais il faut absolument la voir, faut pas la rater. C'est pas une série que je recommanderais à tout le monde, mais c'est une série qui satisfera vraiment les fans du genre. Si vous appréciez les thrillers politiques où, en fait, ce qui se passe dans le truc, c'est pas des grandes scènes d'action, c'est juste des conversations entre responsables politiques importants dans des pièces diverses, et des intrigues qui vont se dérouler, découvrir dans la géopolitique mondiale au cours des épisodes, bah, c'est un truc pour vous. Si ça, c'est pas pour vous, bon, bah, clairement, la série vous intéressera pas. Donc, moi, c'est un truc qui... Alors, c'est pas vraiment The West Wing. Parce que quand je dis ça, on pourrait se dire « Oh, c'est bien écrit, c'est intéressant, ça va vite, tout ça ». Non, comme je disais tout à l'heure, c'est pas Aaron Sorkin. C'est plus proche d'un truc, on va dire, c'est entre Aaron Sorkin et un truc comme Madame Secretary. Je ne sais pas si vous connaissez cette série américaine où il y a une femme qui joue le rôle de la secrétaire d'État américaine, la ministre de la Défense. Je ne dis pas de conneries. Mais en gros, ça, c'était un petit peu plus série classique, un petit peu faite rapidement, un petit peu bon marché. Mais c'était bien, hein, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Mais c'était, bon, clairement une série dans le style traditionnel de ce qu'on connaît dans les séries télé de networks aux États-Unis. Et une série de grande qualité comme The West Wing. Bon, bah là, on est un petit peu entre les deux. C'est quand même de la qualité. C'est Netflix de bonne qualité. Et donc, c'est pas un truc que je vous recommande en disant « Ouais, bon, c'est pas génial, mais allez-y si vous aimez. » Non, c'est bien, c'est cool, mais c'est dans un genre qu'il faut apprécier pour apprécier la série. Donc, ça s'appelle The Diplomat, et vraiment, je vous le recommande si vous aimez les thrillers politiques. L'autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est un manga qui s'appelle, et qui n'est pas fini, qui a commencé en 2020, qui a commencé à être publié en Occident, aux États-Unis spécifiquement, en 2021. Et c'est un manga qui s'appelle Young Ladies Don't Play Fighting Game. En japonais, dans le texte, c'est Taiyari Deshita Ojo-sama, Ojo-sama wa kakuto game nante shinai. Donc ça veut dire les jeunes filles ne jouent pas au jeu de combat. C'est une série qui, comme on pourrait se l'imaginer, parle de jeunes filles qui jouent à des jeux de combat. Donc, comme on est en pleine renaissance du jeu de combat, c'est une série qui pourrait parler à certains auditeurs du rendez-vous jeu. Et ça commence. C'est une série qui est clairement un shonen, donc une série pour jeunes garçons, mais qui est écrite par une femme qui s'appelle Eri Ejima. Et on sent que clairement, c'est une femme qui adore les jeux de combat, mais qui est complètement à fond et qui est bien sûr frustrée par le fait qu'il y a peu de femmes qui jouent aux jeux de combat. Mais donc, c'est un petit peu le fantasme de cette nana qui est, on va dire, enrobée pour plaire aux lecteurs de shonen, donc des jeunes garçons. C'est une fille qui va dans une fille qui doit avoir 16 ans, 17 ans, qui va dans un lycée de jeunes filles de proper young ladies, c'est pour ça que ça s'appelle young ladies et pas young girls, c'est les femmes qui apprennent à être des femmes bien posées, avec des bonnes manières, etc., qui va donc dans un lycée pour être sérieuse et bien éduquée, qui va trouver une compagnonne de jeux de combat, en fait, là où c'était censé être le plus loin possible de toute cette histoire. Et il y a entre elles une relation qui se noue, il y a des... C'est comment dire ? C'est assez... on sent qu'elle fait passer, donc comme je le disais, dans la manière dont elle écrit la série, toute la frustration et même l'amour qu'elle peut avoir pour la série. Et l'amour, je me demande si elle n'est pas lesbienne, par exemple. Parce qu'il y a quelque chose, tu sens qu'à travers... c'est toujours difficile dans cette, avec les Japonais de savoir si ce genre de relation, c'est uniquement de l'amour pour l'art qu'ils sont en train de montrer, la performance, ou si ça va un petit peu plus loin. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas clair, mais tu sens des trucs. Mais c'est pas du tout le centre de l'histoire. Et enfin, il y a la relation qui se tisse entre les deux, l'admiration, l'adoration presque de l'une pour l'autre. Et ça constitue, je dirais, les deux, trois premiers volumes. Et je vous le spoil un tout petit peu, mais après, ça se continue en shonen classique, c'est-à-dire qu'il y a un tournoi. Et un tournoi, c'est marrant parce que c'est un tournoi pas avec des super-pouvoirs et des rayons laser et des kamehameha et des Sharingan, je ne sais plus comment on dit dans Naruto, mais avec des trucs de jeux de combat et de combattants, de joueurs de jeux de combat. C'est marrant. Là encore, c'est pour les fans. Je pense qu'il faut être fan de jeux de combat et fan de manga, donc ça réduit un petit peu la catégorie. Je pense que si on est juste fan de jeux de combat, ça peut nous plaire. Le début est donc un petit peu différent. Après, ça revient dans un format plus classique. Mais il y a tout les classiques du jeu de combat. C'est un jeu qui n'est pas Street Fighter, mais qui est clairement calqué sur Street Fighter. On retrouve les créateurs de contenu au bout d'un moment, les pros, les joueurs qui se battent dans leur salle d'arcade locale, les gens qui ont joué avec leur famille. Enfin, c'est vraiment tous les poncifs, les classiques du jeu de combat, on les retrouve et c'est mis en scène de manière enjoyable. Mais c'est ça qui, c'est de là que vient le plaisir de ce manga, c'est qu'on retrouve des trucs qu'on a un petit peu tous vécu ou sur lesquels on a un petit peu tous fantasmé, comme le fait d'aller dans des compétitions, ce genre de choses. Il y a 5 volumes qui sont disponibles aujourd'hui. Le 6e a été publié au Japon il y a quelques semaines, en juin. Et donc, ça met quelques temps à arriver, quelques mois à arriver en anglais après ça. Et c'est disponible, alors je vous disais que c'est difficile à trouver, c'est disponible sur Amazon par Kindle et donc par Comixology, moi c'est comme ça que je les ai lus, et il y a les 5 volumes anglais qui sont plus chers que les volumes en français, parce que bah, c'est de l'import numérique, je ne sais pas comment ça se passe avec les droits, mais c'est facilement accessible en fait, c'est juste en anglais et un peu plus cher que les mangas numériques qui sont en français. Donc c'est complètement accessible. Mais il faut payer pour, et c'est pas en papier, quoi. Moi, je pense pas qu'on puisse le trouver en papier, et c'est pas un truc hyper connu, hein. Moi, je suis tombé dessus parce que je fréquente les subreddits de jeux de combat, et quelqu'un en parlait un moment, je me suis dit « Ah, tiens, c'est peut-être marrant, c'est peut-être intéressant, je vais aller regarder ça », mais clairement, c'est pas un truc dont vous entendrez parler ailleurs que dans les communautés de jeux de combat. Donc, Young Ladies Don't Play Fighting Games, je le recommande à ceux que ça pourrait intéresser. Les autres, c'est pas forcément votre truc. Ils expliquent beaucoup, hein. Ils expliquent les techniques, les trucs, mais je crois que c'est un petit peu, si on n'est pas au minimum un petit peu amateur de jeux de combat, ça vous intéressera pas. Donc voilà les deux trucs que je recommande aux fans, The Diplomat et Young Ladies Don't Play Fighting Games. Vraiment deux trucs que j'ai beaucoup apprécié cet été. J'ai passé de très bons moments en regardant et en lisant ces choses-là. Donc si jamais vous tombez dedans, vous aussi, eh ben venez m'en parler sur le Discord parce que c'est des trucs qui sont pas très connus et pour lesquels j'ai personne avec qui en parler. Donc, si vous appréciez ça, venez sur le Discord et on en parlera. Ça me fera plaisir de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Je vous fais de gros bisous. Je suis NotePatrick sur tous les réseaux sociaux, sur notepatrick.com avec tous les liens vers tous les podcasts que je fais. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.